j'aimerais introduire mon thème, mon sujet, par la lecture de Éphésiens, chapitre 2, un verset que vous devriez nous connaissons. Je ne crois pas que qui que ce soit puisse les ignorer. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 doit aller avec, hein, parce que je crois que c'est justement la concrétisation du salut. Hein. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. J'avais à peine quelques mois de vie chrétienne lorsque l'apparent paradoxe entre la souveraineté de Dieu dans les affaires de l'univers et dans les affaires de l'homme et dans le salut de l'homme et la responsabilité foncière de l'homme sur sa vie, sur le péché, sur le salut m'amena à interroger autour de moi certains serviteurs sur cette question, et j'avoue qu'à cette époque-là déjà leur trouble n'était que peu désarçonné, hein, l'opacité de leurs arguments, hein, me laissa insatisfait. Je voyais bien d'un côté, hein, presque dans une séquence, je voyais bien d'un côté la souveraineté de Dieu, hein, dans Romains chapitre 9, verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un usage vil. Mais d'un autre côté, je voyais aussi la responsabilité de l'homme dans le chapitre suivant. Romains chapitre 9, souveraineté de Dieu, Romains chapitre 10, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voyais la responsabilité de l'homme, complétée par verset 17 de Romains 10 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou vient de la parole de Dieu. » Alors, à travers les siècles, les hommes se sont identifiés soit au calvinisme, enfin depuis la réforme, soit à l'arminianisme. Ce sont deux mouvements théologiques qui sont nés pratiquement à la même époque. On est en train de parler dans les années 1500 et poussière, hein, 1515, 1520, 1530. Et donc les hommes se sont identifiés de part et d'autre, là, en calviniste ou en arminien, comme s'il n'y avait que ces deux possibilités. Comme si c'était la Bible, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la synthèse parfaite de la question théologique sur le salut. Hein. Et plus que jamais, hein, cette polarisation s'est faite sur l'une ou l'autre des vérités. C'est-à-dire que les gens se sont cristallisés sur un aspect ou un autre. Les uns ont beaucoup insisté sur l'aspect souveraineté de Dieu, et son objectif calviniste. Les autres ont vu davantage la question de la responsabilité de l'homme et se sont considérés davantage comme des arminiens. Or, je ne joue aux pédants, hein, mais qu'il me soit permis juste de résumer les axes principaux, hein, de chacun de ces systèmes théologiques. Hein. Le calvinisme, donc, lui, insiste surtout sur l'aspect souveraineté de Dieu. Alors, vous avez, premièrement, la dépravation totale de l'homme. Incapacité absolue de choisir le bien. C'est un mort. Il ne peut absolument rien faire. Il ne peut pas choisir, il ne peut pas décider, il ne peut rien faire. Il est mort spirituellement, il est dépravé, il a une nature pécheresse. Et évidemment, un certain nombre de passages d'Écriture nous montrent cela. Éphésiens chapitre 2, hein, le verset 1er, nous étions morts pour nos péchés et nos transgressions. L'arminianisme, au contraire, lui, insistant davantage sur la responsabilité de l'homme, sur le libre arbitre de l'homme, dit non, il a une certaine capacité encore dans l'homme, il peut choisir le bien, il peut choisir le salut en raison justement de ce libre arbitre, de ce libre choix que Dieu lui a laissé. Du côté calviniste, on dit non, élection inconditionnelle. Élection inconditionnelle. Le choix des élus avant la fondation du monde repose sur la seule volonté souveraine de Dieu. Dieu donne la foi, Dieu donne la repentance, c'est un tout. De l'autre côté, l'arminianisme dit non, élection conditionnelle. L'élection avant la fondation du monde était basée sur une préscience divine. Dieu savait lesquels des hommes allaient répondre à l'appel de Dieu, lesquels allaient se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et il les a élus. Calvinisme dit Christ n'est mort que pour les élus. Expiation limitée aux seuls élus. L'arminianisme dit non, expiation illimitée. Potentiellement, le sacrifice du Christ a été offert pour tous les péchés, sans exception, de toute l'humanité, y compris Adolf Hitler, Kadhafi et les autres. Toutefois, seuls ceux qui se confient en Jésus-Christ comme sauveur bénéficient de ce pardon, bénéficient de la vie éternelle. L'Abinisme dit « grâce irrésistible ». Le Saint-Esprit adresse un appel particulier aux élus, qui les amène forcément au salut. Le Saint-Esprit attire irrésistiblement à Christ. La coopération de l'homme est inutile. De l'autre côté, les Arméniens disent « non, non, non ». En raison de son libre arbitre, l'homme peut résister à l'appel du Saint-Esprit. L'Esprit ne peut régénérer que si l'homme se repent et croit. Côté calviniste, persévérance des saints, persévérance des élus. Les élus ayant été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, ayant la foi par l'Esprit, sont sauvés pour l'éternité. Ils sont gardés dans la foi par la puissance de Dieu et vont persévérer. Côté arminien, non, on peut déchoir de la grâce. On peut déchoir de la grâce. Et on entend parfois des explications assez bizarres. J'avais partagé avec des gens qui étaient arméniens, j'avais dit, écoutez, la Bible nous dit que nous sommes dans la main de Dieu et personne ne peut nous en arracher. Personne ne peut nous en arracher. Alors j'ai entendu l'explication suivante qui vaut le détour. Hein. Oui, personne ne peut nous en arracher, mais on peut sauter hors de la main de Dieu. Bon.
Contre-côtistes, ils sortent.
En tous les cas, contre-côtistes sont plutôt arméniens. Hein.
Oui, ils sortent beaucoup.
Peut-être, je ne sais pas. J'espère que non. Hein. Je prie pour que les pentecôtistes soient réellement des nouveaux et des élus du Seigneur. Et enfin, tout est-il que le courant arménien, on peut déchoir de la grâce. On abandonne la foi. Ceux qui avaient pourtant fait une profession de foi sincère peuvent perdre la vie éternelle. Et bon, certains arméniens ne sont pas d'accord avec ce point de vue. Il y a certains arméniens qui prétendent que l'on persévère. Hein. Bon, alors, sur cette question-là, il y a eu un débat de fond, hein, calviniste, arménien. Le débat de fond s'est fait. Tout à l'heure, j'ai dit 1500, je me suis trompé d'un siècle, pratiquement. C'est 1600. Le site, c'est au synode de Dort, de l'Église réformée, que la position arménienne a été rejetée par l'Église réformée. Attention, je parle bien de l'Église réformée. Et les positions calvinistes ont été réaffirmées. Hein, les réformés ont manifesté leur attachement à la doctrine telle que Calvin l'avait formulée. Alors, moi, personnellement, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec les deux systèmes. J'en ai toujours eu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai des problèmes avec les deux systèmes. Les difficultés pour le chrétien biblique, pour le chrétien évangélique, de s'inféoder à l'une quelconque de ces synthèses théologiques. Je suis convaincu que la plupart, sinon la totalité d'entre nous, ne parvient pas à s'identifier pleinement avec l'une ou l'autre de ces synthèses théologiques, représentatives du calvinisme ou de l'arminianisme. Et par quel étrange jeu cherche-t-on ça et là à se contorsionner pour toujours faire partie d'une école ou d'une autre? La question que je pose, c'est est-on encore calviniste si l'on ne retient que 4 ou 3 ou 2 des points de Calvin? Est-ce qu'on est encore arménien si l'on n'accepte plus 2, 3 ou 4 des 5 points de l'arménianisme? Est-ce qu'on peut encore se réclamer de ces noms? Il m'a toujours paru étrange, personnellement, qu'un chrétien biblique ne puisse pas simplement dire « Je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis bibliciste. » Je suis bibliciste. Alors, sur les étagères de ma bibliothèque, j'ai une bibliothèque ici, j'ai une bibliothèque en haut, j'ai à peu près, je ne sais pas, 3000 bouquins, peut-être 250, 300 théologies. Hein, et sur mes bibliothèques, au moins, ils arrivent à coexister. Hein. J'ai Strong, des calvinistes comme Strong et Calvin et Hodge et Berkhoff, etc. D'un côté, et puis de l'autre, juste à côté, il y a Wesley, il y a Millet, il y a Finney. Non, ils coexistent là. Non pas que je pense que les uns et les autres ont raison, parce que, à nouveau, je ne crois pas que la vérité biblique souffre ce genre d'élasticité. On ne peut pas avoir raison tous les deux. On ne peut pas. ils ont raison et ils ont tort sur certains points. Les étiquettes, c'est vrai, peuvent être utiles, mais elles sont rarement exactes et complètes. Et si Calvin revenait, il répudierait un grand nombre de ceux qui distinguent Théo de son nom aujourd'hui, en ne retenant qu'une partie de son schéma. De même, si Arminius revenait, je suppose qu'il déplorerait les modifications qui ont été apportées à son système théologique. Le calvinisme comporte 5 points majeurs immuables. L'arminianisme comporte 5 points majeurs immuables. N'en modifier qu'un seul, et les termes calvinistes et arminianistes ne peuvent plus être légitimement utilisés et revendiqués. Personnellement, je ne me reconnais dans aucune de ces écoles de pensée. Et je découvre de plus en plus, en lisant et en écoutant les uns et les autres, je découvre de plus en plus d'exégètes bibliques du passé et du présent qui considèrent ces deux termes comme inadaptés, comme inappropriés et franchement comme obsolètes. C'est un débat dans l'Église réformée et ça ne nous touche que indirectement et partiellement. Quand j'ai commencé à rassembler mes idées sur cette question, je me suis rendu compte qu'un message, même deux, ne suffirait même pas à satisfaire mon appétit et le vôtre sur ces questions. Et peut-être qu'un jour, on pourra, si Dieu me donne davantage de temps, faire un séminaire sur cette question-là. Simplement sur la proposition suivante, c'est que le biblicisme doit constituer l'alternative doctrinale théologique pour remplacer calvinisme et arminianisme dans notre pensée, dans notre jargon. Je dis d'emblée, le système arminien me semble le plus pernicieux. Je le dis d'emblée. Avec cette espèce de synergie où l'homme participe d'une certaine manière, où il peut perdre son salut, ça me semble plus dangereux que le système calviniste. Mais le système calvinisme me dérange parce qu'il y a à l'intérieur de ce système aussi des incohérences que nous allons voir. Avec des textes bibliques, pas des incohérences dans le système. Le système est parfaitement huilé. Le système théologique du calvinisme est parfaitement huilé. Celui de l'arminianisme l'est tout autant. Mais maintenant, il suscite des incompréhensions sur des versets, sur des passages d'écriture. On se dit, mais attends une seconde, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est Calvin ou est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Calvin ou est-ce que c'est Jean? On s'interroge. Bon, la question dit très bien en ce qui me concerne. Mais ce qui me gêne dans le système calvinisme, c'est cette espèce de déterminisme absolu. Alors, j'aimerais que vous sachiez que je ne veux pas aborder la question, je le fais peut-être un tout petit peu de temps en temps dans ma présentation, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce que je veux éviter de faire, c'est d'aborder la question sous un angle pragmatique, c'est-à-dire regarder aux fruits et dire, voilà, on ne veut pas poser des fruits. Discerner les effets pervers. Alors, il y a des effets pervers, même jusque dans cette pensée qui a beaucoup de noblesse, il y a beaucoup de bonnes choses, de très bonnes choses au sein de ce système calviniste. Mais je résumerai donc 10 constatations sans les expliciter tout le temps. Le calvinisme, c'est une constatation pratiquement générale, freine l'ardeur des évangélistes et des témoins du Christ. Pourquoi? Nous allons voir, certains disent, bon, Dieu sauve, c'est un choix unilatéral de sa part, il va sauver. Et ça freine l'ardeur. Et vous savez que beaucoup de le calvinisme renaît de ses cendres régulièrement en spoliant les autres églises. Le mouvement passe par le courant des livres jusque chez nous et puis s'empare d'églises. Mais ce n'est pas un mouvement qui est créateur, qui est engendreur d'églises. C'est un mouvement qui parasite les autres églises. Et il y a un mouvement ainsi aux États-Unis qui est en train de se dessiner, en Angleterre, en France aussi, je le sens, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. La deuxième chose, c'est qu'il sape le sens de plusieurs passages et pensées des Écritures, et je reviendrai là-dessus vers la fin de mon exposé. La troisième chose, c'est qu'il rate la vraie perspective du grand plan de rédemption de Dieu, et surtout dans le domaine de la missiologie, aller vers les autres avec l'évangile de Jésus-Christ. Il débouche parfois sur des extrêmes, un des extrêmes qui me semble blasphématoire, vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais l'un des extrêmes qui me semble blasphématoire, c'est par cet auteur-là, sur ce point, hein, quand il parle de prédestination à l'enfer pour certains. Dieu a prédestiné certains à l'enfer. Donc ça me semble blasphématoire par rapport à ce que je vois dans les Écritures. Mais c'est la logique de sa pensée, il y a une prédestination au salut, donc il doit y avoir aussi une prédestination à l'enfer. La cinquième constatation que nous pouvons faire, je ne suis pas le seul, hein, et on est des milliers à l'observer, c'est que souvent le calvinisme tend à susciter une espèce d'orgueil parmi les élus du mouvement, hein, une espèce d'orgueil chez eux. Il englobe des considérations très philosophiques plus que bibliques. Hein, beaucoup de ses ouvrages sont truffés, hein, de raisonnements, hein, quasi philosophiques plus que de versets bibliques, plus que de passages des Écritures. Il tend à étioler la foi que nous pouvons avoir dans la justice de Dieu, qui est perçue comme arbitraire. Hein, s'il sauve le frère Corentin, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas le frère Dupont, là, à l'extérieur ? C'est perçu comme une espèce d'arbitraire. Bon, on peut peut-être corriger cela en disant que ce que Dieu fait est toujours bien, hein, mais je veux dire, la perception est là. Huitième point, il fait de Dieu l'auteur du péché, puisque toute rébellion, toute chute était conçue dans le conseil souverain de Dieu. Si l'homme n'a pas vraiment de libre choix, là, il subit une espèce de déterminisme. Neuvièmement, le calvinisme, en définitive, réduit la responsabilité de l'homme à une cause chacun. Quelle responsabilité ? Quel choix ? Dieu l'a élu, il l'a attiré d'une grâce irrésistible, ça n'a rien à voir avec lui, il ne répond pas, tout lui est donné, la foi et tout. C'est un déterminisme. Comment peut-on croire à la responsabilité de l'homme s'il n'a pas de libre arbitre quelque part, là, si le quiconque ne fonctionne pas quelque part ? Dixième point, il porte ombrage sur la réalité de l'amour que Dieu porte à l'humanité déchue. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, mais dans une optique calviniste, il faut dire Dieu a tant aimé le monde des élus. Afin que quiconque des élus soit en Christ. Alors, mais plutôt que de mesurer donc l'impact très, très pernicieux sur certains points, hein, que le calvinisme a accompli dans l'histoire de l'Église, je préfère que nous nous arrêtions à un aspect précis de la vérité biblique, celui auquel nous attachons évidemment une grande importance, puisque c'est de là va découler notre démarche vis-à-vis des autres, de là va découler notre perception au salut, de là va découler notre compréhension de la question salut, donc ça va grandement affecter notre témoignage, ça. C'est les relations entre Dieu, la foi, la régénération, comment est-ce que ces choses se produisent, comment ils interviennent. Et j'aimerais qu'on procède justement contre Robert, il hésite là. Procédant donc à l'examen des relations, hein, entre l'action de Dieu, la réaction de l'homme, le miracle de la régénération. Alors, l'énoncé du problème, c'est est-ce qu'il y a une séquence ? Et quelle est cette séquence ? La régénération d'abord, et la régénération produit la foi, quand on a le salut. Ça, c'est l'optique calviniste. L'arminien dit non, l'homme a la foi et Dieu régénère à ce moment-là. C'est l'optique arminienne. Est-ce que ce sont les seules séquences possibles ? Alors, depuis quelques années, se répand dans nos milieux l'idée dont l'étrangeté ne cesse de me surprendre, c'est que la régénération précéderait obligatoirement la foi en Christ. Ça me surprend. Je vais dire pourquoi. Certains disent la régénération soit rend possible la foi dans le Sauveur ou même l'initie purement et simplement. Avec la régénération, et donc apporter le don de cette foi subjective en Dieu. Le livre auquel je faisais référence, il a d'ailleurs été traduit en français, ce livre, hein, de Arthur Pink. peut-être Europresse, hein, Europresse est très calviniste. C'était eux qui l'ont cultivé. Je ne suis pas en train de dire que l'Europresse, c'est pas bon. Hein. Je veux dire, sur ce plan théologique, ils sont calvinistes. Hein, c'est tout. Je ne dis pas plus. Il y a d'excellents ouvrages, l'Europresse. Mais ce livre hein, affirme sans embâge, la foi n'est pas la cause de la nouvelle naissance, mais sa conséquence. Sa conséquence. Dans un ouvrage qui a été écrit par Loren Bettner, un presbytérien, Loren Bettner, donc c'est je traduis le titre, hein, c'est la doctrine réformée de la prédestination. Cet auteur déclare, nous n'avons rien à faire dans le processus de la nouvelle naissance. Elle se produit sans que notre consentement soit sollicité. Je cite encore, si quelqu'un croit, c'est parce que Dieu l'a rendu vivant, et si quelqu'un ne croit pas, c'est parce que Dieu l'a privé de cette grâce. Et une dernière citation du même ouvrage, du même auteur, page 166 et 167, c'est en anglais, ceux qui veulent le regarder. L'âme morte dans ses péchés est d'abord transférée dans la sphère de la vie spirituelle, et alors elle a la foi et le repentir. Moi, ça fait des années. Ça fait des années que je prêche, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça fait des années. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça fait des années que je dis, la foi vient ce qu'on entend. C'est pas une espèce de nébuleuse. Hein. Il y a des gens qui disent, oh, vous avez la foi, si seulement je pouvais avoir la foi. Aujourd'hui, mais la foi, c'est placer sa confiance dans les promesses de Dieu. C'est placer sa confiance dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça fait des années que je prêche ça. Je suis complètement en train de me tromper, là. Hein. Mais est-ce que je me serais trompé d'évangile? Bon, qu'il soit clair, dans un premier temps, que bibliquement, le salut ne saurait jamais être crédité, ni partiellement, ni totalement. Alors, ça, on est clair. Clair là-dessus. Je rejette complètement une espèce de synergie là où l'homme participe à son salut, où il a une part active dans son salut et il aide à son salut. Ça, je rejette complètement. Mais le fait que j'affirme, que vous affirmiez dans vos pupitres, en croyant en bien au salut, ne peut pas être considéré comme la source du salut, mais le moyen. Éphésiens chapitre 2, verset 8, dit clairement que le salut est par la grâce divine et il nous est donné gratuitement à travers le moyen de la foi. La foi n'est pas la cause du salut, la foi est le moyen du salut. La grâce est ce qui nous donne le salut. Il y a un manque de différence, je crois, c'est mon appréciation. Il y a un manque de différence entre l'affirmation du bibliciste que par la foi, nous ne faisons qu'humblement recevoir ce que nous étions incapables de faire, notre propre salut. Hein, que par la foi, nous recevons humblement tout ce que Dieu a fait pour notre salut. Celle de l'Arminien qui s'imagine quelques participations dans son salut, quelques synergies hein, dans son salut, et celle du Calviniste qui lui affirme que Dieu nous fait accepter la grâce, pratiquement que nous le voulions ou pas. Alors, je dis, le théologien Griffith Thomas, son ouvrage en anglais c'est Principles of Theology, les principes de théologie. Il écrit, hein, je crois qu'il résume bien la pensée bibliciste. Lorsqu'il écrit, alors c'est pas un auteur récent, hein, je crois qu'il est du 19e, fin du 19e, si je ne m'abuse. Mais il écrit. C'est tout à fait incorrect de dire que la foi est la cause de la grâce, quand elle ne constitue qu'un canal, un moyen. Ainsi qu'il a été dit et bien formulé, la foi saisit la grâce offerte par Dieu. Ce n'est pas elle qui crée la grâce. Et ceux qui m'ont entendu prêcher sur une base régulière savent que j'insiste toujours sur le fait qu'il n'y a absolument aucun mérite dans le fait de croire. Aucun mérite personnel dans le fait de croire. Aucun crédit qui puisse être porté à notre compte. Lorsqu'on accepte humblement ce que Dieu a entièrement fait par sa grâce, le salut à travers Jésus-Christ. On ne saurait tirer vanité du fait que nous ayons cru à l'Évangile. La foi ne fait que canaliser la grâce de Dieu. Un autre théologien, je ne sais pas si je suis en train de trouver tous, un autre théologien du nom de Mullins, un baptiste, déclare dans son ouvrage le titre est en anglais, la religion chrétienne dans son expression doctrinale. Il dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce, à travers la foi. La foi du côté de l'homme n'est pas une œuvre méritoire permettant l'acquisition de la grâce, mais la condition divine. La condition divine posée pour notre salut. Dieu dit, crois, tu seras sauvé. C'est la condition divine. L'homme ne saurait être sauvé que par la foi, en dehors de tout autre, de toute œuvre méritoire. Et je pourrais multiplier les affirmations faites par des hommes de Dieu à toutes les époques, des hommes que l'on ne saurait targuer, que l'on ne saurait ranger ni dans le camp arminien, ni dans le camp calviniste. Est-ce que ces hommes appartiennent à une espèce de no man's land théologique? Pas du tout. Ils sont simplement dans ce camp que j'identifie comme le camp bibliciste. Ils voient les vérités dans les Écritures, les acceptent les unes et les autres, les intègrent dans un système le plus harmonieux possible. Que cela soit clair, lorsque les biblicistes disent qu'en croyant à l'Évangile, le salut est donné, le salut est donné en croyant à l'Évangile, cela ne détracte en rien au fait que le salut soit entièrement l'œuvre de Dieu, et de Dieu seul, par sa grâce. L'homme ne peut rien initier. Le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction, Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction, conjuguée de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu est présentée. L'homme mesure alors ses besoins, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Heureusement, quand quelqu'un a prêché clairement, repent. Crois au Seigneur Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Il y a 2000 ans. Il a tout payé. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Heureusement que quelqu'un a prêché avec cette clarté. Mais reconnaissant les besoins, eh bien, les perdus invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. La foi vient de ce qu'on entend. On entend bien la parole de Dieu. Alors, est-ce que la Bible accrédite la séquence du système calviniste, c'est-à-dire est-ce qu'il y a véritablement cette séquence régénération et puis alors foi pour les calvinistes ou pour les arméniens, comme je l'ai dit, foi et puis ensuite régénération, ou est-ce qu'il y aurait une autre séquence possible? Le calviniste dit la foi est impossible sans la régénération. L'arménien prétend que parce qu'il manifeste sa foi, alors Dieu le régénère. J'avoue que ni l'un ni l'autre ne me semble correspondre à ce que découvre dans les Écritures. Combien de fois n'avons-nous pas proclamé « Crois au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé » Acte 16, 31. « Crois au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Est-ce que maintenant il faut lire ceci avec l'optique, avec la perspective calviniste et dire à quelqu'un « Quand tu seras sauvé, quand tu auras été régénéré, alors tu pourras croire au Seigneur Jésus-Christ. » S'il y a une séquence. Je vois ici la tête du geôlier Philippe, si Paul et Silas avaient proclamé la chose de cette manière-là. Quand tu seras régénéré, quand tu seras sauvé, alors tu pourras croire au Seigneur Jésus. Oh ben, est-ce que ça va m'arriver ou pas? Faut-il reformuler Jean 3,16 pour qu'il dise de manière très calviniste, là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui n'étaient pas destinés à périr, mais à qui la vie éternelle a été donnée, puissent croire en lui. Parce qu'il faut reformuler tout le verset. Combien de belles vérités bibliques sur lesquelles nous prêchons devraient être complètement réécrites, là, pour coller avec cette théologie, cette approche, cette perspective, issue du calvinisme. Il faudrait inverser les propositions hein, partout. Dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, tout inversé. Hein. Jean 20, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que dire des paroles de Pierre dans Actes chapitre 10, verset 43 ? Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ou celle de Paul dans Actes 13, 39. Quiconque croit est justifié par lui de toutes choses. Et d'autres passages parlent encore plus fort. Hébreux chapitre 10, verset 39. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La parabole du semeur. La parabole du semeur et de l'espérance a-t-elle encore un sens ? Si l'on accrédite la perspective calviniste, à savoir qu'il y a il faut un préalable de régénération. Si la régénération précédait, si la régénération précédait obligatoirement la foi, il serait inutile que le diable s'efforce d'extirper la parole hors du cœur des hommes. Ce serait inutile. Puisque avant même de croire, ils auraient préalablement déjà été régénérés. Inutile. Vous savez que, bon, en lisant en série des sermons, des messages écrits par des gens que l'on range volontiers dans le camp calviniste, y compris sur Jean, hein, on découvre que parfois, ils ne sont pas aussi calvinistes qu'on voudrait bien croire. Hein. Et ayant donc consulté plusieurs livres là-dessus, laissez-moi citer l'un d'entre eux, hein, sur Actes 16, 31. C'est d'ailleurs celui qui a envoyé le pas sur Jean à Métropolitaine Tabernacle à Londres, et on est devenu pasteur. Il dit : voici ce que Dieu a pourvu. Seuls ceux, apparemment, hein, théologiquement, normalement, il aurait dû être calviniste, hein, seuls ceux qui acceptent le Christ, seuls ceux qui veulent être sauvés par le sang expiatoire du Christ sont vraiment sauvés. Et l'ambiguïté persiste dans les propos. Je ne me souviendrai à jamais de l'entretien que j'ai eu avec un serviteur de Dieu ici dans notre pays qui aspirait à venir enseigner à l'Institut biblique et connaissant cette position très rigide hein, sur la question du calvinisme, je l'ai interrogé sur première épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Je lui ai dit, écoute, donne-moi une... comment est-ce que tu expliques première épître de Jean, chapitre 2 et verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Hein? Quand cette expiation était limitée, c'est stabiliste, l'expiation est limitée aux seuls élus. Là, le texte nous dit qu'il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Alors, ayant vainement tenté d'argumenter que le monde, dans ce verset, ne signifiait pas le monde, mais qu'était le monde des élus, je dis, écoute, le monde entier, et tu essaies de me dire qu'il s'agit simplement du monde des élus, et réalisant la faiblesse, hein, il dit, oui, je sais, c'est faible comme argument, hein, je reconnais que c'est faible, et il dit, écoute, de toute façon, moi je suis calviniste en doctrine, et je suis arminien en pratique. Et je dis, non-sens. Illogique. Absurde. Nos pratiques doivent être l'aboutissement des doctrines. Nos pratiques doivent être l'aboutissement de nos convictions, sinon il y a incohérence. Si aujourd'hui j'évangélise de maison en maison, comme Paul l'a fait, si je prêche l'évangile de Jésus-Christ comme les apôtres, si je diffuse Bibles et traités et Nouveau Testament, c'est parce que je suis convaincu que l'évangile doit être prêché à toute la création et que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, évidemment, est-ce qu'on est un hérétique là ? Ou un novateur, quand on repousse l'étiquette calviniste. Entendre certains, oui. Entendre certains, on est quasi hérétique si l'on repousse l'étiquette calviniste, Et dans leur esprit, les Grecs ne voient guère d'autre option que l'option arménienne. Non, je dis non. Consultant souvent ses bons amis que sont l'ouvrage biblique et surtout la parole de Dieu, j'ai pu me rendre compte que beaucoup d'autres chrétiens, et des chrétiens dont on ne saurait mettre en doute ni la fidélité au Seigneur, ni le sérieux, ni la compétence, ont refusé un système et l'autre. D'autres chrétiens défendent ce que j'appelle, moi, le biblicisme. J'ai ici un manuel de théologie qui a été écrit par des baptistes. Alors, c'est fin du siècle dernier, 1895-1903, début du siècle. Alors, deux théologiens, Johnson et Weston. Et je cite ce qu'ils disent dans leur livre. Pour vous montrer que le biblicisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas quelque chose qui appartient à un petit clique quelque part. Hein. À travers le monde, il y a des gens qui ne se reconnaissent ni dans le calvinisme, ni dans l'arminianisme. Hein. Alors, il dit ceci dans cet ouvrage de théologie. Hein. De nombreux calvinistes insistent concernant une régénération spirituelle créée par le Saint-Esprit sans l'instrumentalité de quoi que ce soit, parce que le cœur humain irrégénéré serait insensible à la vérité. C'est au minimum une spéculation bien téméraire, parce qu'elle n'est plus soutenue par aucune affirmation explicite des Écritures. Honnêtement, si quelque chose ne peut être soutenu qu'implicitement et pas explicitement, ça devient du philosophico-théologique, c'est tout, mais pas du biblique. Et ce serait extrêmement imprudent de devenir dogmatique de quelque chose qui est purement philosophico-théologique, qui n'a pas l'appui d'un ensemble de vérités bibliques. James Orr, dans un ouvrage qui s'appelle La progression des vérités dogmatiques, des doctrines. James Orr, qui était presbytérien. Presbytérien, donc normalement, par définition, il aurait dû être un calviniste pur et dur. Hein. Surtout un presbytérien écossais. Voilà, c'est pur et dur. Mais James Orr, qu'on ne peut pas taxer là, de tendance arminianiste, considère que la régénération et la conversion. Donc écoutez, parce que je crois que c'est ça la clé. La conversion et la régénération se produisent simultanément. Simultanément. Et en tout état de cause, il repousse fermement l'idée que la régénération puisse précéder la conversion. Il ajoute que les calvinistes qui adhèrent au préalable de la régénération, il dit d'eux, je ne pense pas que que ce soit véritablement la théologie, une théologie de la réformation très saine, reflétant ce que les Écritures révèlent à ce propos. Je n'ai pris que quelques témoins, hein, que je ne peux pas balader de ton bouquin, je ne peux pas vous faire une projet de 5 heures. C'est pas celui-là. Il y a un autre auteur qui s'appelle Sir Robert Anderson. Après avoir examiné plusieurs conceptions erronées sur ces questions de séquence, il affiche ouvertement sa position. Il dit « Certains, souvent, représentent la foi comme la question de la nouvelle naissance, comme une opération au cours de laquelle le pécheur subit passivement ce que Dieu lui accorde. D'autres conçoivent la foi avec un certain fatalisme. La foi résulterait d'une grâce que Dieu impartirait à l'âme. Mais quand nous examinons les Écritures, toutes ces subtilités et ces erreurs disparaissent comme brume au soleil. Le pécheur se retrouve dans la présence de Dieu, il entend Dieu, il croit Dieu et il est béni avec Abraham sur la même base que lui. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » Et un peu plus loin, sur Robert Anderson conclut, nous ne sommes pas régénérés pour que nous puissions croire. Et là encore, je pourrais multiplier les exemples, les citations hein, d'auteurs chrétiens, dont on ne peut pas douter de la profondeur biblique, de la fidélité au Seigneur. parce qu'on ne souffre aucune contestation. Et il se range dans ce que j'appelle le camp bibliciste. Dans le camp bibliciste. Alors, parfois, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai entendu un pasteur déclarer que le calvinisme strict relève et exacerbe le véritable sens de l'évangélisation. Ce n'est pas ce que nous observons. En Angleterre, il y avait deux mouvements. Il y avait les baptistes généraux, General Baptist, il y avait les Particular Baptists qui étaient calvinistes, les uns étaient plutôt arméniens, les autres plutôt calvinistes. Je ne dis pas que l'un avait raison et l'autre pas. Les deux me semblent avoir eu des pensées qui n'étaient pas tout à fait correctes. Mais en tous les cas, les Particular Baptists ont pratiquement disparu. Tandis que les autres ont continué. Parce que je disais, les hommes ont perdu, pour annoncer l'évangile, on annonce l'évangile. Et ils ont eu une espèce d'agressivité évangélique que les autres n'avaient pas du tout, les Particular Baptists, parce que hey, Dieu va sauver. Dieu va sauver. Et la remarque qui a été faite à William Carey, qui un jour a dit, moi je veux aller aux Indes pour prêcher l'évangile aux Indiens qui sont perdus dans leur péché, qui sont empêtrés dans leur idolâtrie, je veux aller prêcher l'évangile. Eh bien, il se trouvait malheureusement dans la compagnie de baptistes particuliers, le Particular Baptist, et quelqu'un lui a dit, quelqu'un d'important, un mouvement, lui a dit, jeune homme, asseyez-vous, si Dieu veut sauver les Indiens, il n'a pas besoin de William Carey pour faire ça. Pourquoi se soucier du sort des perdus s'ils sont élus? Moi j'ai vécu un fracassé sur cette ville. Si je ne le fais pas, il y a bien quelqu'un d'autre qui va le faire. Je ne sais pas comment ça va se faire en tous les cas. Pourquoi envoyer des missionnaires? Pourquoi faire de l'évangélisation si les hommes sont régénérés par un acte souverain de Dieu qui leur permettra ensuite de recevoir la foi et de croire en Jésus-Christ? À mon avis, la perspective est faussée. Je ne vois plus, avec le calvinisme, je ne vois plus le salut des hommes comme une mission à accomplir, mais comme un fait historique à contempler, c'est tout. C'est tout, à observer. Je ne regarde plus en avant, avec une préoccupation missionnaire, je regarde en arrière, un fait qui est accompli. Alors il y a beaucoup de lecteurs français et anglais, qui sont farouchement calvinistes, encore une fois, au nom de la tolérance, c'est normal, que les gens expriment leur conception là-dessus, et qui n'en démordent pas. J'ai lu dans cet ouvrage, qui est publié par Banner of the Truth en Angleterre, est très très calviniste. Très très calviniste. Ce qui ne m'empêche pas d'acheter leur bouquin, j'en ai plus d'une centaine. Il y a de véritables trésors dans leur pensée parfois. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur leur séquence en ce qui concerne le salut, que je les considère comme abominables, je ne veux rien savoir et je les écarte. Non. J'ai lu dans cet ouvrage, The Grace of God and the Gospel, la grâce de Dieu dans l'Évangile, l'homme doit être né de nouveau, c'est un acte souverain de Dieu, avant qu'il ne puisse se repentir et croire. Avant qu'il ne puisse se repentir et croire. Et je lis ces ouvrages avec intérêt, mais avec un grand discernement aussi. J'ai des ouvrages luthériens que je lis avec le même discernement. Et ne me l'inquiétez pas, j'ai même quelques ouvrages catholiques par-ci, par-là. Mais il faut les lire avec discernement. Régénération divine, conversion humaine, expérience de salut. Alors, on est tous d'accord que pour être sauvé, il faut qu'il y ait régénération de la part de Dieu. Régénération, c'est l'acte de Dieu qui nous donne une vie nouvelle. On est mort spirituellement, on est à la vie. Il y a une nouvelle naissance, régénération. On est tous d'accord qu'il y a une nécessité de la régénération. On est tous d'accord de la nécessité de se convertir. Convertir veut dire quoi? Repentance plus foi. Je me repens de mes péchés, Seigneur, pardon, et je place ma foi dans celui qui s'est donné pour moi sur la croix. On est tous d'accord là-dessus. La parole de Dieu, Jean 3, 7, si un homme né de nouveau, si un homme né d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous naissiez d'en haut, il faut que vous naissiez de nouveau. Palim Genesia, Titre chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés par le bain de la régénération, le renouvellement de l'esprit. On est tous d'accord qu'il y a une nécessité de la régénération. Et sur la conversion, beaucoup de passages. Repentez-vous, convertissez-vous, acte 3, 19. Convertissez-vous, chacun de vous soit baptisé, acte 2, 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, les Thessaloniciens, en racontant comment ils s'étaient détournés des idoles, étaient convertis au Dieu vivant et vrai. On est tous d'accord là-dessus, on est tous d'accord pour admettre la nécessité, il faut l'admettre ça, attention, la nécessité de la repentance et de la foi. Repentance et foi. Aujourd'hui, malheureusement, on prêche souvent un évangile dépourvu de repentance, dépourvu de « Seigneur, pardonne-moi », c'est un petit peu « Allez, venez à Christ, et vous aurez une belle vie, il va s'occuper de tous vos problèmes, ça va changer ». C'est la vérité. C'est la vérité. Bon, les gens s'imaginent autre chose. Après, ils ne se rendent pas compte que, oui, mais si on veut vivre pieusement, il y a aussi des pressions qui se font de la part du monde, de Satan, etc. Mais c'est vrai que la vie en Christ est une vie merveilleuse. Il nous a apporté la vie en abondance. Et je loue le Seigneur pour cette vie nouvelle. Mais combien de fois on laisse de côté l'idée de repentance, et il faut vraiment se reconnaître comme pécheur là devant Dieu et dire Seigneur, pardon. Je me suis conduit comme un rebelle. J'étais pécheur. Je te dédaignais. J'étais complètement indifférent à ton existence, à ta volonté. J'étais complètement indifférent. Je ne me souciais pas de ça. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Et ensuite. Comme le texte de Jean, chapitre 1er, verset 12, nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, pour naître de Dieu. Alors on est tous d'accord pour admettre la nécessité de la foi et la nécessité de la repentance. D'ailleurs, acte 20 et verset 21 les réunit dans un même verset. Paul évoque le fait qu'il n'a pas craint de prêcher et d'enseigner de maison en maison, publiquement et de maison en maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, métanoïa, un changement de disposition par rapport au péché, par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, métanoïa, la repentance envers Dieu, et la foi, pistis, croire, confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est la conjugaison de cette repentance et de la foi qui produisent la conversion. La conversion constitue la facette humaine. Où est la pièce de monnaie? La reprise, La pièce de monnaie. Où elle est?
César.
César. J'ai déjà donné César. César est en train de me plumer. 15 000 francs d'impôts locaux sur le bâtiment du 78 là-bas. Je ne comprends pas assez d'impôts à César. Je lutte contre ça.
Pourquoi, oui.
Je lutte contre ça. Parce que non, normalement, il n'est pas d'impôts. Bon, alors vous avez votre expérience du salut. Encore une fois, je prends une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, il n'y en a pas deux. Une expérience du salut. Vous avez la phase divine qui est régénération, la phase humaine qui est la conversion, qui englobe la repentance et la foi. Et là, vous avez cette expérience du salut, vous avez cette nouvelle naissance. Alors, je vous avoue franchement que la thèse calviniste engendre pour moi de sérieux problèmes. Avec sa séquence. Sa séquence, il me trouve. Moi, je crois que l'homme est dépravé. Je crois. Je crois que Dieu, dans sa grâce, attire. Mais je ne crois pas que la grâce soit irrésistible. Je crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui résistent à la grâce de Dieu. La séquence calviniste rend incompréhensible. Et chaque fois que je pose la question, on marmonne quelque chose, une explication qui jamais me satisfait, qui jamais ne m'apporte de réponse solide. Je dis « Ah !» Merci, je n'avais pas vu cela. Mais cette séquence calviniste rend incompréhensible de nombreux passages dans la Bible. Elle rend inexplicable des passages tels que, j'aimerais que vous regardiez ce passage, 1 Épître à Timothée, chapitre 2, et là, c'est 3 et 4. 1 Épître à Timothée, chapitre 2, verset 3 et 4. L'apôtre Paul vient d'encourager jeune Timothée, un responsable de l'œuvre à Éphèse, a prié et a invité les frères et sœurs là-bas à Éphèse à prier. Et dit, cela est bon, prier, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Notez ce qui suit. Notez ce qui suit. Qui veut que tous les âmes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Si c'est ainsi, s'il le veut, et que c'est le salut est entièrement de son choix, pourquoi? Mais pourquoi ne produit-il pas le vouloir alors? Si c'est entièrement son choix, si c'est lui qui donne le don de la foi, pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas la foi? Ici, nous avons le cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Ce verset montre que Dieu veut que tous soient sauvés. Selon les calvinistes, le salut n'a aucun préalable en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Si Dieu veut que tu sois sauvé, ma question c'est pourquoi? Puisque c'est entièrement dans sa capacité à lui, c'est entièrement conditionné à ce qu'il fait, pourquoi ne le sauve-t-il pas? Je ne comprends pas ce verset. Alors, vous tirez dans la Bible, vous l'enlevez dans la Bible si vous ne faites pas. Hein? Mais moi, je ne comprends pas. Dans la perspective calviniste, je ne comprends pas. C'est un mystère, c'est une incohérence théologique pour moi. Je ne comprends pas. Mais j'avoue que ça fait des années que je suis en train d'étudier ce débat, entre l'arminien et les calvinistes, j'écoute les arguments des uns et des autres, et puis je vois qu'il y a tout autre chose dans les questions. Non pas que je sois le seul. Encore une fois, je ne suis pas le seul. Il y a tous ces gars, il y a des centaines et des milliers d'autres. Je ne suis pas le seul. Ne croyez pas que je sois un novateur. Tiens, j'ai la lumière, je suis une espèce de gourou. Non, c'est pas ça. Deuxième texte, de la même veine, 2 Pierre. 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. Alors, si les gens disent, oh, quand est-ce que le Seigneur va revenir, hein? Où est la promesse de son avènement? Il a dit qu'il reviendrait, mais où? Quand? Hein? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. On ignore déjà qu'il y a eu un jugement. Hein? Mais notez verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, voulant le vouloir tous à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance. À nouveau, je m'interroge, s'il est le seul, hein, si Dieu est totalement le seul dans cette affaire du salut, hein, nous, on n'est pas impliqués du tout, là, hein, on reçoit la grâce et le don de la foi et la repentance, on reçoit tout en un paquet. Hein. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Dieu n'apporte pas le salut à tous les hommes de manière irrésistible, qu'il soit sauvé? Nul doute, hein, commencer à discerner, moi, les choses qui me trouvent, l'inconséquence et l'idéologisme que je trouve dans le calvinisme, peut-être que j'erre, hein, mais ce sont des réflexions que vous voulez partager avec vous. Il y a beaucoup de passages qui deviennent inintelligibles si on les maintient dans un carcan, dans une perspective calviniste. Dieu dans l'Ancien Testament disait la même chose. Dieu ne voulait pas que le pécheur meure, qu'il se repente de vivre. Si le libre arbitre de l'homme, hein, si le quiconque croit, l'exercice de la foi, hein, n'est pour rien du tout, hein, comme l'avance des calvinistes de la part de l'homme, et je mesure ce que je dis, hein, pardonne-moi Seigneur, Dieu serait incompétent et inconséquent, parce qu'il veut quelque chose, il en a la capacité, il est le seul à pouvoir s'occuper de cette affaire-là, il le veut mais il ne le fait pas. Pour moi, il est illogique. Moi, je persiste le signe. Hein. Par contre, si vous maintenez qu'il y a un libre arbitre de l'homme, Dieu est souverain, il a choisi de sauver l'humanité. Il n'avait pas à le faire. Il n'avait absolument pas à le faire. Si Dieu a voulu sauver les hommes, ceux qui croiraient, pure miséricorde de sa part, hein, pure grâce de sa part. si le libre arbitre de l'homme est correctement perçu comme une auto-limitation temporaire, partielle, de la souveraineté de Dieu, et il est toujours en train de le faire d'ailleurs, sur d'autres points. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez purs et saints, moi aussi. Mais, j'ai le libre arbitre, le libre choix, je ne suis pas un pantin, je ne suis pas déterminé, et je choisis parfois de mentir, et je choisis parfois de ne pas être pur. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons. Donc, Dieu a déjà accepté que les hommes fassent des choses qui ne relèvent pas de sa souveraineté absolue, là. Donc, si l'on perçoit le libre arbitre de l'homme comme une auto-limitation de la part de Dieu, temporaire, un jour, il y a un jugement, partiel, c'est dans ce domaine particulier. Si nous admettons ce principe de l'auto-limitation temporaire, très partielle de la souveraineté de Dieu, accordant le libre arbitre pour l'homme, alors tout devient limpide. Tout devient limpide. Alors je comprends les passages où on trouve le cœur de Dieu, Dieu voudrait que les hommes soient sauvés, je les comprends.
Ça c'est Jean d'Église.
Mais là, il y a l'homme qui est rebelle, qui s'entête, et qui ne veut pas. Il ne veut pas. Je comprends tous les passages qui disent, qui compte trois, parce qu'il y a une offre généreuse. Et une offre sincère. Hein, quiconque croit, celui qui croit la vie éternelle, il y a une offre sincère. Je comprends l'urgence d'annoncer l'évangile partout, de prêcher à toute créature, je comprends. Je comprends, alors je maintiens que. Attendez, je maintiens, même avec cela, hein, même avec cette auto-limitation de la souveraineté de Dieu, hein, je maintiens que le salut est l'œuvre tout entier, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous sommes sauvés. C'est lui qui a choisi de sauver l'homme. Je le maintiens. Je vois l'importance du ministère du Saint-Esprit, du ministère de conviction. Je vois l'importance de son ministère. Je vois l'importance de son ministère de régénération. Je vois l'importance de l'instrumentalité de la parole de Dieu. Je vois ces témoins qui sont envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, et qui retrouvent ainsi leur véritable rôle de messager. Je suis troublé quand j'entends dire des gens de la perspective calviniste. Oui, je lui ai annoncé l'évangile deux fois, trois fois. Il ne l'a pas reçu. Il ne doit pas être un des élus. Je suis troublé.